Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
Bonjour à tous, bienvenue au bénéfice du doute. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre émission sur Enseigner la France avec Ayam Sureau. Et nous poursuivons donc en votre compagnie, Ayam Sureau, directrice de l'association Pierre Claver, notre discussion entamée la semaine dernière sur l'intégration culturelle des demandeurs d'asile. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent dans cette conversation que l'association Pierre Claver est une école qui offre aux jeunes adultes demandeurs d'asile, pendant une scolarité qui dure 2 ans, un enseignement très très large, multidisciplinaire, qui est constitué à la fois de cours de langue française, mais également de cours de culture française au sens large, de conférences d'actualité, de musique, d'art, de sport, toute une série de sujets qui leur permettent finalement de s'intégrer socialement, culturellement, dans cette communauté nationale qu'ils ont vocation peut-être à rejoindre à terme. Et nous terminions notre discussion la semaine dernière sur cette notion de petite communauté. Ça marche parce que ça reste petit, parce que les gens se connaissent les uns les autres, qui s'identifient comme des personnes et pas comme des membres d'un groupe ou d'un profil type anonyme. Et c'est cette dimension de petite communauté qui vous permet, en tout cas me semble-t-il, Ayam Sureau, de dépasser un certain nombre d'obstacles qu'on trouve régulièrement répertoriés dans la presse et qui touchent aux incompatibilités d'intégration culturelle au regard de certaines identités d'origine, de traits religieux, de voilà. Je pense évidemment à des polémiques récentes sur, par exemple, le rapport aux femmes et aux filles de réfugiés venus de pays comme la Syrie ou l'Afghanistan. Est-ce que ces problèmes-là, ou je pense évidemment à un autre sujet difficile, le rapport à la question homosexuelle, un autre sujet difficile, évidemment, je vous les offre tous d'un coup pour ouvrir cette deuxième partie d'émission, l'antisémitisme réel ou supposé de ces demandeurs d'asile. Comment on fait pour traiter ces sujets? Il y a une méthode qui nous vient d'Allemagne et qui est extrêmement troublante, qui consiste finalement à préparer des kits d'instruction. À faire des petits dépliants, des petits livrets pour dire aux réfugiés, voilà, chez nous, on fait pas comme ça. Voilà comment on doit se comporter avec les femmes, avec les filles. C'est pas votre méthode, Ayam Sureau. Comment est-ce qu'on prend ces différentes difficultés et comment est-ce qu'elles peuvent être finalement résolues au sein de cette petite communauté qu'est l'école Pierre Claver?
Alors, ce sont plusieurs questions à la fois. Pour la question de la communauté, en fait, je crois que chez nous, elle a été résolue de manière assez simple. C'est que en venant à Pierre Claver, on oblige chaque nouvel élève, chaque candidat, à choisir une nouvelle communauté. Et cette nouvelle communauté, c'est les danseurs, les coureurs, les musiciens, les travaux d'aiguille, et un peu à la manière anglaise. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut rejoindre une équipe, ou une troupe, ou le théâtre. Et ils sont très étonnés par ça. Mais il faut rejoindre. C'est comme dans Harry Potter. Vous êtes une maison, et on ne peut pas rentrer à Pierre Claver si on ne fait pas partie d'une maison. Voilà. Et donc ces maisons sont celles-ci. On peut toujours entrer. Alors il y a des gens qui ont du talent, bien sûr, et qui sont des merveilleux coureurs ou d'extraordinaires musiciens. Et d'autres vont apprendre. Mais en tout cas, ils vont faire partie de cette équipe. Et cette équipe, cette troupe travaille, en fait, au bénéfice de tous, puisque c'est ainsi que nous nous faisons connaître. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on appelle de futurs sponsors à venir nous soutenir. Et donc, je parle sérieusement de contribution économique. C'est-à-dire, c'est le talent de chacun va contribuer à la pérennité d'une structure pour les autres. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est le jour 1 de leur arrivée à Pierre Claver. Donc, une autre communauté. Et nous, on les appelle comme ça, les danseurs, où sont les coureurs, qu'ont fait les comédiens, etc. Cela ne veut pas dire que l'on passe complètement à côté de problèmes. À Pierre Claver, ils n'ont pas été si importants qu'on a pu voir dans la presse, dans d'autres pays ou dans d'autres lieux. Peut-être parce que nous faisons une sélection attentive ou parce que le climat est... Je ne sais pas. En tout cas, nous n'avons pas eu... nous avons eu de la chance. Mais nous n'avons jamais perdu de vue, car nous gardons les yeux ouverts. Dans la précédente émission, on a dit qu'il y avait à la fois les yeux fermés et les yeux ouverts. Il y a un commandement, vous voyez, d'accueillir l'étranger les yeux fermés. Voilà, point barre, c'est
comme
ça.
Et de manière inconditionnelle.
Inconditionnelle. Et en même temps, il y a le souci de construire ensemble une communauté viable, c'est-à-dire un environnement social, économique et politique viable et durable. Et ça, c'est un souci constant, c'est un souci politique constant. C'est pour ça qu'on parlait des deux temps. Et ça, ça se fait les yeux ouverts, à mon avis. Et donc, Pierre Claver, je crois que nous avons les yeux mi-clos, comme un chat. C'est-à-dire qu'on essaye d'espérer, n'est-ce pas, en tout homme, et d'être commandé par sa présence. Et en même temps, certaines choses nous paraissent inadmissibles. Et en fait, je crois qu'elles ne nous paraissent pas inadmissibles parce que nous sommes en France. Elles nous paraissent inadmissibles parce que nous sommes hommes. Et je crois que jamais nous n'avons prononcé devant personne qui se serait mal conduit. Or, c'est arrivé avec une femme en prononçant un propos blessant, un propos antisémite, un propos homophobe. Je crois que personne n'a jamais dit, en France, on ne dit pas ça. Comme si on pouvait le dire ailleurs. Mm-hmm. Quelle horreur! On ne dit pas ça du tout. Non, on ne pense pas ça. Et je vais te dire pourquoi. Du moment qu'on est homme. Et en fait, je suis presque sûre maintenant, après 10 ans de travail, que notre attitude est celle qui est la plus digne. Parce qu'à aucun moment, nous estimons que ces personnes issues de cultures différentes, n'est-ce pas, auraient une toute autre appréciation de la blessure, de l'indélicatesse, de l'inéquité et de la stupidité qu'il y aurait dans des propos ou des actes. Je ne crois pas que ce soit une question de culture. Aucun de nous ne le croit, et eux non plus ne le croient pas.
C'est un pari sur l'universalité de ces valeurs qui auraient pour vous, et en tout cas c'est ce que vous prouve votre pratique quotidienne, la force d'une évidence. Ce qui est assez troublant en vous entendant, et finalement assez enthousiasmant aussi en vous entendant, Ayam Suro, c'est que... on compare finalement votre expérience avec ce débat qui ne trouve pas de solution pour l'instant à l'école. Comment est-ce qu'on enseigne les valeurs de la République à l'école? Il y a tellement d'incivilité, il y a tellement de provocations. On se souvient évidemment que cette réflexion, elle a été mise sur le devant de la scène médiatique au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Comment on fait avec des élèves qui sont dans la provocation ou dans le refus des valeurs de la République? Comment est-ce qu'on retransmet les valeurs de la République? J'ai le sentiment, en vous entendant, que la manière dont vous procédez, en pariant sur des évidences, en pariant sur des universalités partagées par une certaine manière de se comporter les uns avec les autres, pourrait nourrir finalement cette démarche à l'école. Est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression que votre école de jeunes adultes demandeurs d'asile et l'école de jeunes futurs citoyens de la République française, l'école de la République, finalement poursuivent le même objectif? Qu'est-ce que c'est qu'intégrer dans le pacte républicain et comment vous vous y prenez alors?
Je crois depuis quelques années, j'entends de plus en plus de comparaisons entre l'intégration des réfugiés et quelque chose qui serait considéré comme un échec de l'intégration de jeunes Français. De plus en plus. C'est-à-dire, comment se fait-il que ces étrangers qui débarquent apprennent l'orthographe, par exemple, en 2 ans, que nous n'avons pas réussi à apprendre à nos enfants en 15 ans, comment faire? Et en fait, curieusement, c'est l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés porte comme ça une ombre sur des défauts d'intégration ailleurs, c'est-à-dire de Français, ce qui est assez curieux, c'est-à-dire les Français qui voudraient s'intégrer en France. Je crois que les deux situations sont parfaitement incomparables. On voit bien pourquoi on les rapproche, mais elles sont totalement incomparables. Le demandeur d'asile est un demandeur, avant tout. Donc, il arrive en France, ou ailleurs, mais là, dans l'occurrence, en France, en demandant quelque chose. Nous, à Pierre Claver, on dira ce qu'on voudra de nous, nous ne l'oublions pas qu'il est en position de demandeur. Voilà. Nous-mêmes, nous lui demandons beaucoup. Et à son, on a tellement reçu à son contact, c'est-à-dire justement retrouver la dignité d'être français, la beauté de notre littérature, ah mais oui c'est vrai comme c'est formidable, le sens même par exemple de l'histoire, on y reviendra parce que je sais que vous voulez en parler, mais c'est absolument incomparable avec le rejet des valeurs de la République de personnes qui sont nées à l'intérieur et qui imaginent qu'ils ont une raison de la rejeter, parce qu'elle leur a rien apporté, parce qu'ils se sentent exclus, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. C'est deux situations parfaitement incomparables. Prenons l'histoire de France, puisqu'elle a été extrêmement discutée ces derniers temps. Notre cours d'histoire, qui est un des cours les plus importants de Claver, n'est pas tant un cours de contenu, tout comme Claver en soi. C'est un cours qui va de la préhistoire au temps contemporain, mais qui n'a pas pour objet de transmettre les informations nécessaires. Pas du tout. Il a pour objet, je crois, c'est pas moi qui le fais, mais j'y ai assisté beaucoup, il a pour objet de transmettre à des personnes dont la plupart sont issues de pays de violence, de brutalité, d'inéquité, de mensonge, de corruption, sinon ils seraient pas chez nous. Quand on ne l'oublie pas. Et qui donc ont généralement une instruction en histoire et une éducation historique, une culture générale, tout à fait particulière. Ils ont en fait été très peu exposés à quelque chose qui est notre pain quotidien en France, le doute. Le doute. Et je pense que François Sureau, qui fait ce cours d'histoire, ce qu'il leur montre, c'est comment les Français ressentent l'histoire comme une perpétuelle interrogation.
Et comme une occasion de s'étriper les uns avec les autres en permanence.
Absolument,
on est bien d'accord.
Et c'est formidable.
Oui.
Et de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, par exemple, le roman national, de le reconnaître comme tel. Les images d'Épinal, de ricaner, mais de tout le monde, ah, Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, Jeanne d'Arc sous son bûcher, les phrases, on a brûlé une sainte, Louis XIV, Colbert, etc. Ces images-là, on les a, nous ne sommes pas dupes, faut pas prendre les gens pour des idiots, mais on les a, ces images, et on les transmet, et on réfléchit sur de nouvelles images que nous formons sans cesse, de nouveaux romans nationaux que nous formons. L'absence de roman national, l'absence absolument impossible d'un roman national me paraît être le nouveau roman. Vous voyez, c'est notre nouveau roman, c'est de croire qu'on peut faire de l'histoire sans dessiner un portrait idéal.
En même temps, dans votre réponse sur la transmission du doute, du questionnement, oui, de l'esprit critique, je trouve une nouvelle occasion finalement à prolonger, malgré votre refus de la valider, ma comparaison sur le problème plus spécifique de l'enseignement ou de l'instruction civique. C'est le maillon faible de la transmission à l'école de la République. On ne sait pas enseigner l'instruction civique. C'est la matière qui plaît le moins aux enfants et c'est la matière qui est enseignée avec, je dirais, le plus d'extériorité. Comme s'il s'agissait finalement de présenter un système politique. Voilà comment ça se passe en France, les élections, comment ça marche. Vous devez valider ces différentes connaissances, mais c'est pas vécu de l'intérieur et donc on n'a pas l'habitude de former des jeunes citoyens qui seront des futurs contributeurs, qui considéreront pas qu'ils ont droit à la sécurité sociale, mais que finalement c'est quelque chose qu'on a en partage et auquel on doit contribuer. C'est ce que vous faites, vous, quand même.
Oui,
il me semble. Vous apprenez à contribuer en ouvrant finalement cet espace de partage et de contribution. Vous disiez un peu plus tôt que l'école était comme une petite France finalement, comme comme un laboratoire de la France avant d'entrer dans le grand bain.
Oui, c'est en effet un petit laboratoire de la France avant d'entrer dans le grand bain et donc qui permet de voir en fait quelle construction précieuse collective est en œuvre en France. Tous ces réfugiés reçoivent, par exemple, l'ATA, l'allocation temporaire d'attente, un logement social, la CAF, je ne sais quoi, énormément de choses dans un système extrêmement compliqué d'aide sociale. Il est impératif de leur expliquer son fonctionnement, c'est-à-dire de leur expliquer qu'ils sont aujourd'hui les bénéficiaires d'un système dont ils vont bientôt aussi être les acteurs, puisqu'ils vont travailler et cotiser et travailler longtemps, peut-être pour la retraite de Français qu'ils ne connaissent pas, mais qui ont payé pour eux à leur arrivée. Ça, c'est un système d'une dignité inouïe. Et je vous assure que quand on l'explique, les personnes à qui on l'explique sont comme soulagées. D'abord soulagées de comprendre ce miracle européen et français, de comprendre comment il marche, et soulagés aussi de ne pas être ces pauvres chatons à qui on donne un bol de lait à leur arrivée, mais des hommes qui vont entrer dans ce projet commun, le porter avec tout le monde, et c'est très important. Et ce que j'appelle une épreuve transformatrice, c'est-à-dire que je trouve que l'arrivée de ces étrangers, l'arrivée de ces vagues de réfugiés, etc., c'est une catastrophe, certes. Mais il y a une manière de le considérer la chose, c'est de voir justement en quoi le fait d'avoir à leur expliquer cela nous fait nous rendre compte que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas expliqué. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, en fait, des soubassements de ce pacte. Est-ce qu'on en parle à nos enfants? Est-ce qu'on en parle à nos élèves?
Chaque fois, on en parle très peu, en réalité. Et on n'en parle presque pas à l'école.
Mais bien sûr, mais il faut. Et je pense que c'est ça qui est transformateur. C'est-à-dire l'arrivée de tant d'étrangers nous a rendu conscients que nous étions devenus étrangers à nous-mêmes. Voilà, je crois que c'est ça. Et la plupart du temps, quand les personnes s'énervent contre réfugiés qui, par exemple, s'indignent de n'avoir pas reçu à temps je ne sais quelle aide sociale. Oh, ouais, je lui explique, enfin, tu te rends compte, tu n'as pas honte de t'indigner comme ça, c'est un système formidable, etc. Et il y a toujours un volontaire pour dire, mais... Ben, tu sais, il est comme les Français, il voit pas comment ça marche. Il est comme les Français. Et c'est terrible, oui. Il faut qu'on recommence à parler de notre beau système.
Oui, c'est là où je voyais quand même un effet retour, finalement, de cette...
C'est ça que j'appelle l'épreuve transformatrice.
Ouais, ouais.
Vous voyez, bénéfique.
Ouais, ouais. Un effet retour sur notre sentiment d'évidence par rapport à nos systèmes, qui est aussi une occasion de renouer le pacte républicain les uns avec les autres. Ces demandeurs d'asile que vous voyez arriver, ils ont choisi la France, nous rappeliez-vous un peu plus tôt. Ce n'est pas le cas de beaucoup de ces migrants, réfugiés, qu'on sait sur les routes de l'Europe, dont on sait qu'ils traversent chaque jour, qu'ils tentent de traverser la Méditerranée. C'est pas toujours la France qu'ils choisissent. Comment vous avez l'impression que c'est infléchi l'image de la France ces dernières années ? Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre en tant que Français, c'est pourquoi ces gens préfèrent tellement l'Angleterre ou l'Allemagne, mais parfois au risque de leur vie, alors que, je dis pas qu'on est d'accord de les accueillir, c'est pas du tout le cas. On est extrêmement ambivalent sur ce sujet, mais enfin, il pourrait y avoir une possibilité d'asile en France. C'est pas le pays, le choix numéro un des demandeurs d'asile. Comment a évolué cette image de la France?
Je pense que ça a été une découverte pour les Français, et encore une fois, dans le regard de ces étrangers, on s'est vu nous-mêmes, on a découvert que finalement les réfugiés n'étaient pas venus en France pour profiter d'un système de solidarité sociale, mais pour reconstruire leur vie. Et que la France a un système d'assistance obligatoire extrêmement figé et qui empêche beaucoup d'entre eux de reconstruire leur vie et de travailler le plus rapidement possible comme ils l'entendent. Et c'est pour ça que ils partent dans des pays où c'est beaucoup plus facile, par exemple, de monter sa propre affaire. Vous savez, le réfugié, quelqu'un qui a quitté son pays, qui s'est lancé sur la route, c'est quelqu'un d'audacieux et d'autonome. En plus, c'est un adulte, et c'est très difficile pour un adulte d'entrer dans un tissu économique à la française, vous voyez, dans des entreprises, etc. C'est nettement plus facile de commencer tout seul sa petite affaire, même microscopique. Même microscopique, mais tout seul. Et les réfugiés l'ont fait à travers les âges. C'est ça que font les réfugiés. Ils sont autonomes. Ils veulent être autonomes parce qu'ils ne peuvent être qu'autonomes. Ils n'arrivent pas à rentrer, à s'intégrer encore une fois en France et dans les entreprises et dans les communautés et dans les équipes et dans la fonction publique. C'est très compliqué. On est tout seul. Et c'est très difficile en France. C'est très difficile. Le système, il y a en fait le système de protection sociale qui est un système excessivement précieux, est également un piège terrible pour les réfugiés. Et ils essayent de l'éviter. Ils essayent d'aller dans des pays où c'est beaucoup plus facile de se débrouiller tout seul.
Mais notre modèle d'intégration ou d'accueil, si tant est qu'on en ait un, est quand même assez différent du modèle des pays anglo-saxons, qui misent davantage sur l'accueil des réfugiés par leur communauté d'origine déjà sur place, ce qu'on appelle le communautarisme, pour aller très vite. En France, on essaie d'éviter ce recours-là. On a de bonnes raisons pour cela, mais du coup, on est dans un système où finalement l'accueil est plus morcelé. Est-ce que vous avez le sentiment que ça aussi, ça joue un rôle, ou que c'est au contraire plutôt vécu les réfugiés syriens qui arrivent en France, qui demandent l'asile en France, ils sont pas très nombreux par rapport à ceux qui cherchent à rester en Allemagne ou en Angleterre. Ils choisissent la France aussi parce qu'ils sont pas trop nombreux en France. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
On peut dire ça comme ça. La crainte française de communautarisme est une chose qui me... Je comprends. Je comprends un petit peu. Mais pas complètement. Parce que c'est vraiment un pays avec des communautés invisibles très importantes. La communauté de tous ceux qui ont fait HEC, la communauté de tout, vous voyez, la communauté de ceux qui jouent au bridge, la communauté de ceux qui habitent telle ou telle ville. Vous voyez, des communautés ne sont pas forcément ethniques. Et une communauté, c'est très utile pour avancer dans la vie. C'est une solidarité. Et je ne vois pas en quoi c'est tout mauvais. Vous voyez, ça n'est pas tout mauvais. Bien sûr. En Angleterre, où il y a en effet des communautés, c'est tout à fait désagréable, j'imagine, pour de voir des villes devenues entièrement étrangères, en fait, au paysage anglais. Et ça, nous n'en voulons pas en France. La France est un pays souverain avec un peuple souverain. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas des villages étrangers en France, ni des villes étrangères. Il veut que le paysage reste français. Mais les enfants dans les communautés pakistanaises ou indiennes, ils n'ont pas tous tenu la boutique de papa. Ils sont maintenant à l'université. Et je ne suis pas sûre que ce soit un système moins efficace d'intégration que le système français. En une génération ou deux générations, comme on a toujours fait. Comme on a toujours fait. Donc il y a une sorte d'illusion française, de cette espèce d'espace utopique de citoyen qui n'appartient à aucune autre communauté que la République. De choses anonymes et un peu brutales tout de même. D'un côté, et puis c'est ces communautés fermées de l'autre. Je pense que il faut apprendre en 2017 qu'un homme peut appartenir à plusieurs chapelles. Vous voyez, on peut être à la fois, n'est-ce pas? On peut être à la fois un joueur de bridge, un philosophe, un turc, un juif, un français, à la fois. À la fois. Non, le cœur n'en est pas moins grand. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'au XXIe siècle, devrait rentrer dans l'esprit des gens. Ça n'est pas, cette fidélité immense n'est pas double. Il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de conflit d'intérêt, forcément.
On peut avoir une multi-appartenance. Oui, mais bien sûr. Et le vivre de manière sereine et loyale.
Mais c'est une évidence. Et ce que ça me paraît reposer surtout, parce que moi je ne suis pas multiculturaliste, vous voyez, on écrase tout et on transforme la France en grand supermarché des cultures, pas du tout. Je pense au contraire qu'en fait la France est assez forte pour le supporter. Sans jalousie, sans crainte, sans peur. C'est ça que je pense. Et c'est ça que l'on fait à Pierre Clavert, c'est qu'on se montre assez fort dans nos convictions à nous pour supporter... Vous voyez, tous ces vents frais qui nous arrivent de droite, de gauche, d'ailleurs, ces voix différentes, ces accents, ces visages, on se trouve, nous, assez forts et assez français, éternellement français, pour les absorber tous.
Merci beaucoup Ayam Suro pour ce mot de la fin. Je rappelle pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou prolonger cette réflexion autour de l'école Pierre Claver, je rappelle donc le très beau documentaire signé Caroline Eliatchev sur France Culture dans l'émission LSD que vous pouvez voir en ligne sur le site de France Culture. Je rappelle également que cette émission était la deuxième partie d'une conversation démarrée la semaine dernière et que vous pouvez réécouter en ligne sur le site de RCJ, www.radio-rcj.info et sur le podcast de cette émission Le Bénéfice du Doute. Merci beaucoup Ayam Suro et bonne semaine à tous.
C'était Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.